Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mon kiff me ramène. Anthony était dans les articles.
Oh grave. Merde, mais non, mais.
Vas-y, mets.
Limite dans le micro, entendu. Qu'est-ce que tu veux, je te cède. Allez,
non,
vas-y.
Non, vas-y. Passe.
Bonjour. C'est un petit bonjour.
Ouais, grave.
On est tout gentils.
C'est marrant, ça, vous êtes fatigué, ça va pas?
C'est un LM Kid, c'est pour les tout petits.
C'est le LM goûter de voilà. 16h.
Absolument, la dalle.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK. C'est à nouveau Marie-Stéphanie Servoz, vous m'avez déjà entendu 2 ou 3 fois, je sais même plus.
Une fois.
Une fois, c'est tout?
Oui.
Ah oui, bon, bah, oui, j'ai eu l'impression que... 7. Que ça durait plus longtemps, tellement j'ai passé un bon moment. Donc, j'espère que vous aussi. Et je suis en ce beau jour en compagnie de 3 géniales personnes de la team MAD.
C'est gentil ça.
Bah, c'est vrai.
Vous êtes des géniales personnes, c'est vrai.
On fait partie de la team, je peux le dire. Surtout
je
Jacques,
peux le dire. Ouais, voilà, vous faites partie de la team et on va savoir si vous êtes des personnes aussi géniales que ça avec la première question. Quel teasing. Non, je plaisante, vous resterez quand même des personnes géniales.
Quelle que soit la réponse.
Donc oui, non, je suis quand même en compagnie de Mathis.
Bonjour.
Sophie.
Oui. je sais pas. Je cherchais plus original et vraiment j'ai paniqué. Donc Sophie.
Tu peux la refaire, tu veux la refaire. Ouais. Allez, on la refait. Je suis en compagnie de Mathis.
Bonjour. C'est pire.
De Sophie.
Comment passer après ça?
Pourquoi passer après ça?
Bonjour à tout le monde. Voilà, classique aussi. Bah, je suis ravie de revenir dans LMK parce que finalement je ne suis pas si souvent que ça. Mais et à chaque fois c'est chouette.
Et bah, tant mieux.
Et en plus, voilà. C'est la première fois qu'on est dans LMK, oui. Toutes les deux ensemble aussi, Sophie.
C'est donc, ça, exactement.
C'est cool. Je suis contente.
Aussi.
Et je suis également en compagnie d'Anthony.
Hello.
Voilà, un hello très, très timide également.
Je suis un grand timide.
On est sur un LM Kids, Mathis le disait.
Vraiment.
Donc pour cette première question, la question est la suivante. Quel objet vous attire dans un vide-grenier?
On commence par qui?
Ah, qui est le plus inspiré?
Moi j'ai une réponse.
Ok,
ouais, je me doutais que t'aurais une
Anthony.
Réponse.
Je suis... un peu une pivoleuse dans la vie, genre, enfin non, pas que je vole des choses, mais je suis très attirée par...
Rattrape-toi.
Non, mais en fait, je suis très attirée par les choses qui brillent. Je me retiens d'être bling-bling au quotidien, et je porte très très peu d'accessoires, d'ailleurs j'en porte assez... enfin, j'en porte jamais, je pense. J'avais une montre, mais on me l'a volée. Bref, qu'importe. Et en gros, dans une brocante, je suis attirée par tout ce qui est en métal, en particulier le laiton et tout ce qui est doré, et vraiment, ça m'attire énormément, et à chaque fois que je suis dans une brocante ou un vide-grenier, etc., je me retiens d'acheter une espèce de mini-bar à roulettes de dessert en laiton, un petit chariot comme ça sur lequel je mettrais tous mes sirops et mes alcools et mes jolis verres et mes boissons sans alcool aussi. Voilà, donc je serais...
Et tu te retiens ou tu le fais?
Non, je me retiens de l'acheter.
D'accord.
Un jour, je pense que j'en aurai un, mais là, c'est vraiment pas la priorité d'acheter une dessert en laiton.
C'est rarement la priorité.
rarement, mais je pense que j'en achèterai une un jour.
Oui, moi je sais quand même que tu viens de t'installer dans ton nouvel appart.
Oui, mais je me retiens de faire des... n'importe quoi en fait. Mais je chine petit à petit des objets de seconde main, des meubles de seconde main. Et c'est assez compliqué parce que j'ai pas le permis. Donc il faut trouver quelqu'un qui puisse me ramener avec le meuble encombrant et tout. Donc voilà, je prends tout mon petit temps, c'est assez chouette.
Donc tout ce qui brille, ouais. Ok, le laiton et les objets un petit peu...
En métal, mais vraiment, surtout le laiton, surtout ce qui est doré, ouais.
Ouais, mais une dessert quand même, c'est spécifique.
Ouais.
C'est pas des petits bijoux...
Il fallait choisir un objet, ce serait une dessert, un petit mini chariot, un mini bar à roulettes. En laiton.
Je le vois bien, ce mini-bar. Je sais pas pourquoi je l'ai en tête. J'ai l'impression qu'il y en a dans toutes les brocantes.
Oui, c'est vrai. Tu peux même rentrer avec, comme c'est sur roulette. On y va à fond. Tu vois, tu prends ton élan, tu prends tes rollers, go. Hein.
Bah ouais. Dans le métro, c'est très bizarre. Et non, là, ouais, pourquoi pas.
T'es là pour trouver des solutions, c'est génial.
Absolument, je suis solution oriented aujourd'hui. Tu peux même accrocher Ruby en chien de traîneau devant. Et ce sera un bon.
Pauvre Ruby.
Pauvre Ruby qui n'a pas tant de force, finalement.
Heureusement qu'elle n'est pas là pour t'entendre.
Non, heureusement.
Bah tiens, Mathis, c'est quoi toi l'objet qui t'attire le plus en brocante?
Alors j'ai pas fait énormément de brocantes ces dernières années depuis que je bénéficie de mon libre arbitre, mais dans mon enfance traumatisante, j'ai été beaucoup emmené dans les brocantes de petits bleds à côté de chez moi par mes parents, enfin emmené traîné en fait, et techniquement c'est un mauvais moment pour moi, je marche très très vite dans la vie, du coup le fait que tout le monde soit à vitesse réduite, ça me rend mes barges, et du coup j'ai vraiment du mal à stagner derrière des gens comme ça et s'agglutiner derrière des trucs. Mais s'il y a des objets que je suis susceptible de vaguement regarder, ce serait plutôt les livres, parce que je suis un connard de sapio. Et voilà, c'est à peu près ce que je regarderais. Encore que maintenant, je regarderais peut-être les bijoux aussi, qui peuvent avoir des trucs chouettes, pas trop chers des fois. Même si c'est du toc, je m'en fous un peu. Enfin, je préfère que ce soit du toc d'ailleurs, parce que j'aime pas avoir des trucs de valeur sur moi. Ça me stresse.
Je doute que t'en trouves en brocante aussi.
Des trucs en toc?
Non, des bijoux en or, véritablement.
Oui,
non,
ah, je bah, pense pas.
Tu les payes 600 balles à Saint-Ouen, quoi. Ouais. Dans des espèces de galeries.
Voilà, ça n'arrivera pas. Donc, on va plutôt partir sur une réédition de Fifi Brin d'Acier de 74. Ce sera très bien.
Cool. C'est quoi, genre, ta dernière acquisition, justement, bouquin en...
Ouh là là.
En seconde main?
Alors en seconde main, je pense que c'est quand je faisais des virées à Emmaüs, quand j'étais étudiant à Lyon, j'avais un Emmaüs pas loin de chez moi, et du coup je ramenais des tas de classiques à chaque fois, et je crois que c'est là où j'avais acheté un Antigone avant de capter, bah de Jean Anouilh, avant de capter que ma mère l'avait dans sa bibliothèque, et du coup je me suis retrouvé avec deux exemplaires dans un truc de déménagement, et je sais plus lequel j'ai lu.
Mathis, t'habitais dans le 7e?
À Lyon, oui.
Ouais, ok, d'accord. Oui. C'est genre, dis-moi que t'habites dans le 7e à Lyon, sans me dire que t'habites dans le 7e à Lyon.
Il n'y a pas 30 000 des Emmaüs.
Je sais très bien où est cet Emmaüs. C'est le quartier de mes parents aussi.
Bah, c'est le quartier de gens dont je gardais les enfants aussi. Du coup, à chaque fois, c'était sur mon passage. J'étais un babysitter woke. ça faisait vraiment scandale. Les parents n'étaient pas très contents de voir un homme garder des enfants. Et c'était vraiment très perdu. C'était marrant.
Ok. Sophie.
Merci pour ce beau portrait des Lyonnais.
Pas de soucis.
Alors, je suis un peu comme Mathis. Quand j'étais plus jeune, vraiment, j'avais tout ce qui était vieux en Saint-Aurore. J'étais beaucoup attirée par le neuf.
On embrasse et tous les gens dans des EHPAD, voilà, tous les gens un peu âgés.
Voilà, désolée. Et vraiment, c'est depuis assez récemment, enfin quelques années quand même, que je fais des friperies ou des brocantes, etc. Et même brocante, ça reste assez rare, mais c'est vrai que je pense que je serais attirée par... Ça dépend quel type de brocante aussi, mais les bijoux et les bougies.
Ah, oh, c'est presque le même mot.
Ouais, ouais.
Bougies et les bijoux.
Les bougies ou les bougeoirs?
Non, les bougies. Il y en a des très
belles.
Il y a des
bougeoirs aussi.
Qui sont sculptées et qui n'ont jamais été utilisées.
Waouh.
Voilà.
Ah ouais?
Ouais.
On n'a pas été dans les mêmes brocantes. Hein. Moi, il y avait vraiment des mecs qui vendaient des télés et t'achetais la télé et marchait pas.
Oui.
Ça m'est arrivé deux fois.
Non, mais c'est... alors j'ai vu ça les dernières fois et j'aime bien. Voilà, j'ai trouvé ça chouette.
Bah ouais, de ouf.
Après, évidemment, les livres, etc. Mais c'est vrai que dans les brocantes, on peut faire des jolies trouvailles de bijoux. Et oui, voilà, je crois que les derniers trucs que j'ai achetés, c'était ça. Parce que j'habite à Saint-Ouin. Donc,
voilà. Bah oui, d'accord. Et
plus de Saint-Ouin.
Voilà.
C'est ça. Bien, évidemment, je n'ai pas le budget pour tout ce qui se trouve dans l'épice de Saint-Ouen, mais...
Oui. Ouais.
Pour les gens
ouais,
qui ne sont
même
pas familiers ouais de l'écosystème Paris et proche banlieue, Saint-Ouen, du coup, c'est dans le nord de Paris, un endroit un peu brocante, enfin, brocante permanente, quoi, où globalement, vous avez plein de bonnes
affaires. Il y a ce qu'on
appelle
les puces de Saint-Ouen,
voilà,
qui existent depuis très, très, très longtemps. Et où il y a, c'est pas tu réserves ton espace et tu viens vendre tes affaires, c'est vraiment des gens qui ont des espaces, parfois même des boutiques, enfin il y a des boutiques et c'est chouette parce qu'il y a aussi plein d'endroits pour manger où tu peux te poser et prendre un petit café et...
Mais c'est vraiment
tu passes un bon moment en général.
Ouais, exactement. C'est un endroit où quand je reçois des gens à la maison, en fait, pendant une heure ou deux, on se prévoit d'y aller et ça fait une activité touristique.
C'est la sortie culturelle.
Exactement. Mais au même titre que d'aller à Montmartre ou ailleurs dans Paris, en fait, c'est assez chouette à voir. Et quand j'y vais, j'aime bien aussi voir les livres, les anciens manuscrits. Des fois, ils ont des beaux almanachs. Et voilà.
Le mot almanach, vraiment.
Oui, pardon.
Est-ce qu'il y a déjà eu le mot almanach une fois dans l'MK?
Je suis pas sûr, ce sera le titre, almanach.
Almanach, c'est sûr.
On va attirer vraiment tous les gens de l'Académie française. Ouais. Ça y est, on les a.
Et je salue les gens de l'Académie française.
Elle va nous faire un discours. Merci à ma mère, à mon père.
On salue tout le monde aujourd'hui.
Feu Jean d'Ormesson.
Mais voilà, mais je pense que ça serait bijoux, bougies et livres.
Moi, je pense que tu as fait exprès de dire bijoux et bougies pour que Mathis dise « c'est le même mot ».
Oui, vraiment. Il ne manquait plus qu'à bas-jour. Là, un travail sur le son.
Ok, trop bien. Et moi, je vous rejoins aussi parce que j'étais petite, très très souvent emmenée par mes parents dans les brocantes.
Ils adorent ça, les darons.
Mais c'est un truc de dingue. Ouais. C'était une passion, la sortie du dimanche. Moi, ça me saoulait grave. Ouais.
C'est vraiment le dimanche en
et
plus.
Et oui. Et puis, même quand il faisait froid et tout, enfin, je me souviens. Et en vrai, ça me saoulait à l'époque, mais c'était quand même des bons souvenirs. Mais du coup, j'ai fait un total rejet après. Et j'aime bien maintenant y revenir. Et moi, ce que j'aime bien, en plus des livres, parce que je pense que ça, on s'accorde vraiment pour dire que c'est cool de tomber sur des petites pépites, peut-être qui sont plus éditées, que tu trouveras pas ailleurs, ou je sais pas, des bouquins qui sont un peu des Madeleines de Proust de que tu lisais dans ton enfance et qui ont complètement disparu. Donc c'est assez chouette. Mais moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est tout ce qui est art de la table, va dire. Donc, je sais pas, genre des assiettes, des jolis verres. En plus, c'est souvent l'occasion de, pour le coup, tomber sur de la vaisselle de qualité, souvent vieille, enfin vintage, on va dire, à des prix vraiment hyper bas. Et ce que j'aime particulièrement, c'est trouver l'assiette qui sera seule. Et du coup, qui sera complètement dépareillé, je sais pas, genre des autres assiettes que j'ai chez moi. Parce que je trouve que ça crée un très joli ensemble après de plein de choses dépareillées, mais qui ont un certain charme, qui ont, tu sais, que tu supposes qu'elles ont une histoire derrière. Alors, pas forcément romanesque, hein. Potentiellement, c'est, je sais pas, le petit garçon dans les années 60 qui se faisait engueuler par sa mère parce qu'il voulait pas finir ses brocolis, j'en sais rien. Mais il y a un truc de « j'ai pas acheté mon assiette chez Ikea » pour ne pas les citer. Ouais. Et voilà. Alors après, j'ai quand même des assiettes Ikea. mais j'aime bien les, ouais. La vaisselle.
Moi, j'ai des verres tous dépareillés chez moi dans mon appart parce que c'était un meublé. Et ils sont tous moches d'une manière très différente. Ah. Mais jusque-là, j'en avais un que j'aimais trop. J'en ai déjà parlé ici. C'est mon verre téton.
Ton verre téton ?
Oui, en fait, c'était un vieux verre que j'avais chopé, que j'ai gardé à tous mes déménagements, qui était un vieux verre, je pense à whisky, assez large. Et en fait, le fond était vert, genre, enfin, pas en vert, mais enfin, si, mais bah, bref. Et au fond, il y avait une espèce de petite remontée rouge qui ressemblait à un espèce de téton. C'était vraiment très laid, mais comme c'était camp, je trouvais ça rigolo de le garder. Donc, à chaque fois, voilà, j'ai des verres kitsch et moches chez les gens, où je propose aux gens, tu veux quel verre horrible ? Et j'ai pareil avec mes tasses, j'ai vraiment des tasses très laides. Et mon but, c'est vraiment de proposer la plus laide aux gens à chaque fois.
Bah, j'avoue que moi, si je vais chez quelqu'un, je préfère boire dans une tasse laide, mais tu vois, dont tu te souviendras.
Ah là, oui.
Plutôt que. Non, tu te dis, l'énième verre Ikea, oui, encore c'est... une fois, oui, les pauvres.
Puis je ne suis pas assez responsable pour avoir de la porcelaine, quoi. Donc,
De l'argenterie.
Voilà, on n'est pas là-dessus.
Ok, ça en dit long. Hein.
Oui.
et c'est le moment de passer au petit message que nous et vous, que nous avons reçu, que vous avez reçu. Est-ce que vous avez reçu des messages dernièrement?
Yep.
Sympa.
Absolument.
Mathis.
Absolument. J'espérais que tu ne me poses pas directement la question, Karine.
C'est trop tard. Tu as dit yep, donc c'est bon. À toi.
Marie nous a envoyé « Bonjour, laisse-moi kiffer. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je viens vous témoigner mon amour. J'ai commencé à écouter LMK quand c'est sorti. J'étais très assidue et puis la vie a fait que j'ai arrêté. Il y a peu, je cherchais des podcasts à écouter. Je me suis rappelé de cette pistache des podcasts que j'aimais plus jeune. Cette ref est-elle trop vieille ? Cette ref n'est pas trop vieille. J'ai alors eu la merveilleuse idée de reprendre LMK du début et quel bonheur. Entre les jeux de Cédric, autrefois gratuit, devenu payant, les rêves artistes émergents devenus famous et les blagues qui n'ont décidément pas vieilli, LMK est toujours aussi chouette et savoir que j'en ai toujours en stock me ravit. Alors merci d'avoir accompagné mes trajets en bus en rentrant du lycée dans ma petite ville natale et merci de me suivre dans le métro pour rentrer de mon stage de fin d'études. Bisous LMK. Je trouve ça très très mimi et du coup je me dis que du coup Marie va découvrir qu'on lit son commentaire dans peut-être 3 ans. Bon courage.
Nous aurons bien vieilli à ce moment-là.
Absolument.
Trop cool, trop sympa.
Ouais,
merci
non, c'est adorable, j'aime bien.
J'aime bien l'idée que les gens ils aient grandi avec le podcast, que beaucoup de gens ont commencé à écouter vraiment jeunes et dans des périodes où on change énormément. Enfin, je sais pas, entre 15 et 25 ans, c'est pas le même changement qu'entre 35-45, ouais. I guess. Enfin, je sais pas, je parle pas, d'expérience, mais bon.
Et d'ailleurs, Marie, tu nous diras, hein, quand tu auras fini les centaines d'épisodes, comment est-ce que tu les as réécoutés? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que, voilà, je sais pas, peut-être tes petites réactions et commentaires.
Moi, de mon côté, je n'ai pas de message. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'écrire.
C'est quoi ton Insta, Sophie?
C'est jus d'abricot.
Ah oui.
Voilà, séparé par des tirés du bas. Et voilà, mais ça fait un moment que je ne suis pas venue. Et je crois que celui qu'on a enregistré la dernière fois n'est pas encore sorti.
C'est possible, ouais.
Ouais.
On est dans le futur, voilà. Là, encore.
Oui.
Waouh. Anthony, toi, t'as reçu des messages ?
Alors, je sais pas pourquoi Instagram bug beaucoup. Et en fait, là, les rares commentaires qui m'a retrouvé... En fait, il y a eu un filtre qui permet de voir les messages non lus. Et généralement, je laisse les messages de LMK en non lus jusqu'à un enregistrement. Et là, il m'a sorti un truc qui date du 10 décembre. Donc, Fanny, je ne sais pas si tu m'entends.
Si tu ma voix.
Elle a peut-être arrêté d'écouter le podcast, voilà, du
peut-être
coup.
Peut-être que t'as rage quit, que t'as arrêté d'écouter parce que tu dis que je t'avais jamais lu. Eh bien, voilà, ton tort est réparé. Je cite. « Salut Anthony, un petit message pour répondre à ton mariage idéal. Je suis un peu en retard dans les LMK. Je plus sois totalement ta vision d'un mariage idéal. Personnellement, je rêve d'un mariage sans invité, autre que les témoins, parce que c'est obligatoire. » Je ne veux pas dépenser des sommes folles dans une journée guindée où je serais mal à l'aise et je garde l'argent pour un super voyage de noces sur une île paradisiaque. Je suis ravie que tu aies évoqué cette possibilité. Je me sens moins à part d'avoir cette envie-là. Heureusement que mon amoureux partage la vision de la chose. Pour moi, le fait d'être marié compte plus que la journée du mariage. Je te souhaite un très bon week-end. » Alors, je me rappelle même plus de ce que j'ai raconté, mais de ce que tu décris, ça a l'air ouf. Donc, je suis entièrement d'accord avec le fait que tu es d'accord avec moi.
C'était le VJF. C'était clairement le VJF, je pense.
Je pense que c'est un épisode où on parlait de VJF et du coup de mariage.
Ouais, et t'avais organisé celui de sa pote.
Oui, oui, ça, je sais qu'il avait organisé un VJF, mais je crois qu'on a...
Je suis ton agent. C'est votre mère, monsieur.
Mais je crois qu'on a échangé sur nos visions d'un mariage parfait.
Ouais.
Et il y avait les personnes qui voulaient un mariage à la campagne, d'autres qui voulaient un mariage en ville, et d'autres avec plein d'invités, etc. Et moi, j'avais dit, en fait, le moins de personnes possible. Et je crois que je venais de lire un bouquin sur le mariage de Jean Seberg et Romain Gary, qui s'appelle « Mariage en douce », je crois, parce qu'ils sont mariés en secret, organisés par les forces secrètes de France.
Les forces de l'ordre.
Non, non, non. Enfin, presque en fait, parce que je crois que c'est des militaires, hein, les forces secrètes.
Oh, ça doit être l'enfer, la déco.
Les agents secrets.
Vraiment la pire tâche.
Ouais, je pense.
Et du coup, oui, quelque part, c'est des forces de l'ordre. C'était un livre pour notre book club et tout le monde l'avait détesté sauf moi qui avais adoré. Bref, qu'importe. Et du coup, on avait parlé de nos mariages idéaux et j'avais dit oui, un mariage en douce, en fait, quelque part. Ne pas forcément inviter la famille qui va ramener des gens aussi que tu connais à moitié, etc. Et les amis d'amis, et les plus sains des gens que tu connais pas. Ne pas avoir 46 000 inconnus à ton mariage, et juste des gens que t'aimes et que t'as choisi, et garder la thune pour faire un beau voyage.
Ouais, en fait, que ton mariage soit ton choix, quoi. Et ouais. Pas celui de ceux qui ne se marient pas ce jour-là, quoi.
Ouais, un choix et pas un puits sans fond, voilà. C'était le commentaire de Fanny, merci beaucoup. Et toi, Marie-Stéphanie?
Alors... Donc moi, comme je suis nouvelle dans LMK, j'ai reçu un message suite au premier épisode avec moi, qui a été diffusé, de Sarah, qui était un message de bienvenue, très sympa. Alors, merci Sarah, tu me disais, bienvenue dans LMK. Très sympa d'entendre parler dans LMK de la déferlante, que j'aime beaucoup. La déferlante qui était mon kiff du coup de ce premier LMK, qui est un magazine féministe papier. En vente sur abonnement ou dans vos meilleures librairies féministes. Voilà, donc trop cool. Du coup, tu connaissais déjà La Déferlante, donc j'ai rien apporté de neuf, mais ça permet d'en reparler. Donc tu disais, très sympa d'entendre parler dans LMK de La Déferlante que j'aime beaucoup et de Sophie Lambda que j'adore et que je suis sur Insta. Le teasing n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et je parlais de Sophie Lambda parce que Sophie est la dessinatrice avec laquelle je réalise ma BD, dont je parlais aussi dans ce dernier épisode de LMK. Voilà, donc écoute, merci Sarah, c'est un cool accueil. Enfin, c'est sympa de recevoir des messages comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est tout. Juste merci, ah oui, hein, juste merci.
C'est déjà très bien.
C'est déjà très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de prévu au planning pour la suite?
On a de prévu une vie de bolosse.
Voilà, c'est ça. Une vie de bolosse. Alors
On a une vie de bolosse qui date un peu, je crois, et qui vient de Mayel. Alors voilà ma vie de bolosse. Je cite déjà, du coup. Je me suis enfin décidé à faire des podcasts. Il faut savoir que ça fait des années que je parle de ça et que je consomme des podcasts, genre H24 depuis bien 4-5 ans. Bref, je décide d'investir l'argent de mon anniversaire dans un bon micro / enregistreur de bien 160 euros, plus des frais d'expédition. Donc voilà, 170, on va dire. Je vais directement acheter les bonnes piles car j'ai lu qu'elles n'étaient pas fournies et comme ça je suis prête à commencer dès que le micro arrive. Une semaine passe, pas de nouvelles, pas d'email, pas de colis. Je vais sur le site. Heureusement, j'avais bien noté, copier-coller, mail et mot de passe. J'avais donc noté mon email faux. Je vais donc changer mon email et là je vois que malheur, j'ai écrit la même adresse pour billing address et delivering address car hashtag contexte, je vis cette année à Berlin. Hi Berlin, entre parenthèses. et je suis domicilié et ma banque aussi en Suisse. Mon colis est donc arrivé chez mon père une semaine plus tard. J'ai donc demandé à mon père de me renvoyer en Allemagne par la poste, car vraiment pas envie d'attendre avril où je retourne en Suisse. En bref, frais d'expédition, 25 euros. Presque deux semaines plus tard, mon paquet arrive enfin chez moi et je dois payer 43 euros de frais de douane de bâtard. Bref, là je suis en chemin pour aller chercher mon bébé qui a traversé deux fois l'Allemagne, car ce bâtard est produit en Allemagne pour plus cher que si j'étais allé le chercher en personne. C'était cher, mais je me réjouis de faire des podcasts de gauche, hashtag la gauche. Désolé, Mayel, que tu aies vécu ce moment compliqué. Je pense qu'on a toutes et tous eu des expériences compliquées avec les livraisons qui viennent parfois de plus loin que ce qu'on pensait. Je me souviens d'une fois où j'avais voulu acheter un poster rigolo sur Etsy et moi, je savais pas qu'Etsy, ça pouvait venir de super loin et qu'on pouvait se taper des frais horribles. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ça fait vraiment cher le poster random dans le salon.
Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que tu vas lancer ton podcast. Donc, bravo, parce que c'est cool.
Ouais, de ouf. Envoie-le-nous, comme ça, nous, on en parle. Voilà.
Ouais. On ira t'écouter et bravo, tout simplement. C'est le moment de parler de nos kiffs, n'est-ce pas ?
On
a un petit jingle à faire.
Absolument. Qu'on va pas faire nous-mêmes, tout va bien. C'est comme d'habitude le jingle de Cédric.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. Pour en faire les mêmes kiffs.
C'est l'heure. Merci Valentin.
Une harmonie vraiment
oui.
Sublime. Je pense qu'il faut qu'on monte un groupe. Je sais pas ce que vous en pensez.
La Corse les déteste.
Hein Donc c'est le moment de nos kiffs. Et tiens Sophie, j'ai envie de te donner la primeur de ton kiff. Quel est ton kiff cette semaine?
Nous sommes en mai, fin mai, au moment où nous enregistrons ce podcast, et nous venons de passer un long week-end, et j'en ai profité pour retourner dans le sud de la France, là d'où je viens, et ça s'appelle Saint-Céré, une petite ville du Lot. Et en fait, mon kiff, c'est sur le dynamisme de cette ville qui ne meurt pas, malgré...
Tu bosses pour la mairie?
Non, absolument pas. Mais en fait, je me rends compte quand j'ai habité que j'ai grandi là-bas. Vraiment, c'est une petite ville qui fait environ 5000 habitants dans le Lot. Donc c'est vraiment
100 ou 5 ?
5000.
Ok.
Donc vraiment, à l'échelle de la France, c'est un gros village, on va pas se mentir. J'ai grandi là-bas, du coup je suis arrivée pendant la maternelle dans le Lot et à Saint-Céré plus exactement. Et j'ai fait ma primaire, collège, lycée, parce que oui, il y a un lycée, sachant que c'est le seul...
On n'en doutait pas.
Ouais. Non mais écoutez, c'est le seul à 40 km environ alentour.
Ouais.
Ouais.
Wow. Donc, ça veut dire que tu aurais dû faire 40 km de trajet pour aller au lycée. Ouais.
Et les gens, en fait, généralement dans mon département, sont à l'internat en fait, quand ils sont au lycée.
Ouais.
Mais toi, t'as peut-être connu ça aussi.
Oui, moi, énormément de gens venaient avec les cars locaux. Mmh. Et puis, t'avais une grosse partie qui était en internat, en effet, et qui vivait à 25-30 bornes du lycée.
Ouais, c'est ça. Et en fait, forcément, quand on y habite et qu'on est jeune, on trouve ça trop nul.
Oui, voilà.
Et en fait, quand j'y retourne avec des gens qui ne connaissent pas, en fait, ils sont assez impressionnés par le dynamisme. C'est-à-dire que là, il y avait une fête organisée dans le théâtre. Il y avait un espèce de festival d'artisans qui venaient montrer leur savoir-faire. Et il y a des choses prévues comme ça, plusieurs fois par mois. Et les commerces, j'étais super impressionnée parce que ça faisait plus d'un an que je n'y étais pas retournée. Et les commerces, alors évidemment, ça ferme, ça arrive, mais ils sont immédiatement remplacés par d'autres choses. Et ce qui est assez rare...
Parce que c'est pas le cas de ma ville natale. Typiquement, oui. Bah, les commerces ferment juste, quoi. Enfin, c'est vraiment...
Pourquoi ta ville natale, Mathis ?
Alençon. C'est la ville où il y a souvent des reportages à la télé sur les centres-villes des villes moyennes qui meurent. Voilà. C'est vrai, hein, ça fait vraiment deux fois qu'on est l'exemple et à chaque fois, ils filment la rue. Enfin, en fait, la mairie essaie de refaire plein de trucs, faire plein d'initiatives, de refaire, les petites rues, faire des animations, de faire des espaces verts, etc. Et en fait, juste, il y a deux grosses zones commerciales en périphérie qui, en fait, gangrènent tout. Le cinéma, avant, était en centre-ville. Il a été transféré à côté du gros centre commercial à l'ouest, si je ne dis pas de bêtises, là où il y a déjà la piscine, etc. Et en fait, il y a de moins en moins d'activités à faire en centre-ville. Et du coup, les adresses ferment et c'est un cercle vicieux, quoi. Et du coup, il y a des fois des tentatives de reprise. Donc, il y a un truc, c'était la Halle un temps. Après, c'est devenu H&M, ça n'a pas marché, c'est devenu Monoprix. Donc, Monoprix, on te souhaite le meilleur pour tes deux semaines d'ouverture à Alençon.
Longue vie, Monoprix.
T'as quand même des donc, chaînes.
Bah oui, on a quelques chaînes. Quand on a eu un H&M, on était en mode waouh, la femme, il a vraiment tenu moins d'un an, je crois, dans la ville. Donc,
c'est une grande ville, du coup,
H&M. 30 000 habitants. C'est une ville moyenne.
Par rapport à chez moi, ça reste...
Oui, c'est pas un village, mais c'est un peu la taille un peu bâtarde, entre guillemets, dans le sens où genre, à la fois, t'as une grande ville et en même temps, t'as souvent l'ombre d'une plus grande ville à côté, la plus grande ville à côté étant
Le Mans. Le Mans, ok, d'accord.
Et Le Mans, moi je sais que c'est. Enfin, quand j'y allais, quand j'étais gosse, j'étais en mode, mais c'est New York ici.
C'est New York.
J'étais en mode, disons la Fnac. Je trouvais ça dingue. Et bon, évidemment, maintenant que j'ai vécu dans des plus grandes villes, je trouve moins que Le Mans, c'est New York. Voilà, des bisous aux Manceaux.
Mais tu vois, je ne savais pas que les habitants du Mans s'appelaient les Manceaux.
J'ai eu un doute en le disant, donc...
Attends, on va vérifier. Habitants du Mans. Non, mais en tout cas, moi, ce que je constate...
C'est que...
Habitants du Mans. Moi, ce que je constate, parce que je suis allée googliser vos villes d'origine, parce que typiquement, je ne savais pas où Alençon était sur la carte. Oui,
personne.
C'est un scandale, mais...
Personne.
Ah, je ne sais pas. Mais bref, c'est très joli en tout cas. Alençon, c'est très joli.
Mignon.
Et Saint-Céré, c'est vraiment très mignon. Je vais montrer.
Oh, il y a un petit château.
Oui, alors,
et oui,
attends. C'est une ville en fait qui existe depuis le Moyen Âge.
C'est trop.
Donc là, c'est la rue du Lycée, par exemple.
Ça, c'est la rue du Lycée.
Ouais. Moi, j'avais ça. C'est un petit village de cartes postales.
Ah
et
ouais.
On a plusieurs villages classiques.
On dirait un
tout
peu
autour.
Annecy ou Strasbourg.
C'est une enfance au Puy du Fou, quoi, vraiment.
Ouais. C'est incroyable. Et en fait, c'est une région.
Le lycée, il était dans le château, en fait.
Incroyable.
Et vraiment, c'est une région qui existe, qui a été envahie par les Anglais, qui est très touristique, d'ailleurs, par beaucoup d'Anglais. Et on a énormément de châteaux forts aux alentours, etc. Qui ont été très très bien restaurés. On a même un château de Renaissance pas loin, pareil, qui a été restauré. Donc ça amène énormément de tourisme. Et en fait, on vit principalement de ça. Ouais. Mais je pense que contrairement à ta... Si, toi, tu dois avoir des lycées, forcément.
Oh, oui, bien sûr, oui, on avait pas mal de lycées. Je sais pas, on devait en avoir deux généraux publics, je crois, ou trois. Deux,
parce que, en fait, le fait qu'on ait un lycée, mine de rien, ça force, enfin, on peut faire toute sa scolarité, en fait.
Ouais.
Et du coup, ça fait que les gens restent un certain temps. Ouais. Et je pense que ça joue énormément. Donc, on n'a aucune chaîne. Tu vois, tu disais que tu avais un H&M, etc.
Okay.
Donc, c'est que des boutiques de créateurs ou des gens qui font leur...
Il y a une spécialité ou pas à s'insérer? Je sais pas, genre comme le nougat de Montélimar, tu vois.
Alors... Ça se trouve, ça va être un truc barbare, tu sais, comme dans certaines villes en mode oui, bien sûr, ici on tue
les chats
poules.
Empaillés. Ou... Ouais, c'est affreux.
Alors, non, alors comme c'est, on est entre le sud-ouest, enfin vraiment, on a cette culture mi-sud-ouest, mi-Auvergne, en fait.
Donc le rugby et la Volvic.
Voilà. Pas tout à fait, mais du coup, en termes de nourriture, on mange assez bien. Et on est surtout... la spécialité, c'est les vergers et les noix. On a les entreprises Andros et Materne qui sont vraiment juste à côté de chez moi. il y a énormément de vergers. Et au niveau des noix, il y a énormément de cultures de noix. Donc, on fait des très bons gâteaux aux noix.
Ah, ça me donne faim.
Ouais, très, très, voilà.
Mmh.
Ouais,
pourquoi on n'a pas un goûter dans LMK?
La misophonie, principalement.
Ah oui. Ouais. T'as raison.
Voilà.
Je crois qu'on a déjà fait des dégustations en live de cadeaux.
Oui, 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 quand on mangeait les pralines qui n'étaient pas du coup de Lyon, mais qui étaient les vraies pralines.
Quoi ?
De Montargis ? Pas Montargis ? J'ai un doute. Pardon à la personne qui nous a offert des pralines et je suis
on
en train
pas
de...
Montargis ?
Je crois pas qu'on prononce le S.
Je sais
Moi, je dis Montargis, j'avoue.
Ah ouais ?
Ouais.
Moi, je non, le dis quand même rarement,
c'est
j'avoue.
C'est comme
après.
Le Lot, j'aurais envie de dire le Lot, mais...
Ou Rangis, non, tu vois. Ça n'a rien à voir avec Rangis.
Rangis.
Ou Régis.
Régis.
C'est ouais. Vrai, c'est tentant de dire Régis. Bref, pardon.
Non, t'inquiète. Non, mais voilà, spécialité. Après, bon, on est, voilà, tout ce qui est cuisine du canard, voilà, c'est très viandard, hein, après, comme coin.
Comme beaucoup d'endroits en France.
C'est
hein,
ça.
Je connais pas beaucoup d'endroits où leur spécialité, c'est végétarien, hein, traditionnellement.
J'avoue. Ouais.
Voilà, mais on fait, ben, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de fruits chez moi. Donc, malgré tout.
Les vergers.
Vergers, etc. Donc, fruits confits, exactement. Enfin,
bon, mais dis donc.
Pierrot gourmand.
C'est gourmand.
Aussi. Ouais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, ouais. Et, donc, et sinon, au niveau de la population, donc, je vous ai dit, c'était, c'est un gros village à l'échelle de la France. Mais finalement, c'est vraiment considéré comme une petite ville dans mon département qui a la même population que la ville de Saint-Étienne.
Ah ouais ?
Pour vous donner un ordre d'idée.
Ah ouais ?
Non.
Ah oui, donc il y a du monde, en fait.
Il n'y a pas 100 000 personnes à Saint-Étienne ?
Non, dans mon département.
Ah, c'est la ville principale qui a... d'accord, okay.
Voilà. Okay. Dans mon département, il y a autant d'habitants qu'à Saint-Étienne.
D'accord, dans ton département, ok. Je comprenais rien.
Dans mon département, ok. La densité de population, enfin, pas la densité de population.
Pour vous donner un ordre d'idée, donc on est vraiment à Diagonale du Vide, donc il n'y a pas de transport en commun.
Diagonale du Vide, quoi. J'ai toujours trouvé ça affreux.
Ouais, c'est pas une expression très sympathique.
Pas très...
Mais c'est
un peu...
Oui, mais c'est géographique, je crois. C'est les géographes qui ont...
Ouais, ouais.
S'ils l'ont dit...
Le mépris des géographes.
Ils ont leur raison, hein. Voilà.
Mais du coup, nous avons tout en miniature. Un petit cinéma avec une salle, un théâtre. D'ailleurs, le festival de Saint-Céré...
Le fameux.
Oui, cette année, il est du 31 juillet au 12 août. Et il est pas mal connu, en fait. Ça attire à chaque fois plusieurs milliers de personnes.
Bah, y a bien un festival
de
Gérard Mer, donc bon, à partir de là... Non mais c'est vrai, il y a des petites villes qui ont réussi à complètement tirer leur épingle du jeu avec un festival qui les dépasse largement. Enfin.
Et là c'est un festival d'art lyrique pas mal.
Trop bien.
Et en fait les spectacles ont lieu dans les châteaux forts, alentours, etc. Donc c'est assez joli.
Trop bien.
Ça donne bien envie.
Voilà. Et voilà, et en fait je suis assez impressionnée parce que je me plaignais et en fait je me rends compte que j'ai été super mal habituée parce que en fait je me rends compte que chez moi ça bouge. Plus que je ne le pensais. Et surtout, quand je me balade à Paris, je vais chahimer un peu Paris, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu sais, la butte aux cailles, ça ressemble à un petit village. » Et je ne trouve pas. Parce que j'ai
pas
grandi...
Pas Saint-Céré, en tout cas.
Je grandis... Bah vu oui, là où j'ai grandi...
Quand t'es dans un petit village, évidemment, à côté, voilà. Ça fait un peu Disney, quoi.
C'est ça. Et mon village étant ce qu'il est, Moyen-Âge, etc., je trouve que la butte aux cailles, c'est juste un truc qui a été construit à la va-vite dans les années 50-60. J'ai l'impression.
La butte aux cailles, si vous nous écoutez, on vous aime quand même. Hein.
Après, peut-être qu'il y a une vie de quartier, je ne sais pas, je n'y ai pas vécu, mais
Puis c'est censé être un peu plus précaire historiquement. Enfin, c'est des coins qui se sont super gentrifiés, mais genre, c'est un endroit où il y avait plein de baraques ouvrières, etc., qui ont été faites très vite aussi, quoi. Enfin... C'est vrai qu'on a glamourisé des trucs en fait qui à l'époque ont été construits pour des raisons plus pratiques, je pense.
Mais oui, c'est exactement ça. Donc voilà.
Ouais.
Voilà mon kiff. Si vous passez à Saint-Céré, d'ailleurs n'hésitez pas à me demander des adresses.
On viendra de ta part.
Si vous passez à Saint-Céré, Sophie va vous donner son adresse. Vous pourrez dormir chez ses parents.
Voilà. Mais j'embrasse tous les Saint-Céréens du coup.
Saint-Céréennes. Okay.
Voilà.
Et j'ai vérifié les habitants du Mans, c'est les Manceaux et les Mancelles.
Voilà.
Donc,
jusqu'au bout, vraiment pas de bol.
Non, c'est ce que t'as dit, t'as pas dit Manceau.
Non, par rapport à eux, moi,
oui,
moi ça va.
Est-ce que ça te fait penser à quoi, Manceau et Mancelle?
Ah, Mancelle, c'est joli comme
savoir, Mathis.
Mancelle, c'est joli.
Ça fait Juvencelle un peu.
C'est vrai. Ah, le truc qui matrixe les gens par rapport aux gentillets que je connais, c'est les gens de Caen et les gens de Cannes. À Caen, c'est les Canets et à Cannes, c'est les Cannois. Voilà. Et souvent, les gens, ils disent Canet, ils pensent que c'est Cannes et en fait, non, c'est Caen. Il faut pas se tromper sur le GPS. Okay. Ça n'est pas le même endroit.
Ah ouais, ouais, clairement, ouais. Vous n'allez pas arriver au même endroit.
Non.
Très bien. Eh ben super. Saint-Céré, très joli petit village ou petite ville plutôt. Mathis, oui. C'est quoi ton kiff?
Mon kiff me ramène. Anthony était dans les articles.
Oh grave. Merde, mais non, mais.
Vas-y, Mathis.
Limite dans le micro, d'entendu. Qu'est-ce que tu veux, je te cède? Allez,
non, vas-y. Vas-y.
Après, sinon, je fais un très mauvais kiff et tout le monde sera content d'entendre
le tien. Ne vous battez pas.
Non, mais on se battra après à la régulière. De mon côté, je suis également revenu aux sources, mais sachant que j'ai eu plusieurs sources dans ma vie, Alençon étant vraiment une source assez tarie. Mais j'ai été à Lyon pendant un temps dans ma vie, j'en ai déjà parlé ici. Donc voilà, je suis retourné à Lyon quelques jours la semaine dernière, l'occasion de passer à l'Amour de Nuit, à Yaffa, à Ninkasi, pour manger des burgers végé avec ce steak de lentilles incroyable et des sauces barbecue qui piquent et de la moutarde au miel. Je les aime si fort. Donc n'hésitez pas à manger à Lyon, il y a plein d'endroits incroyables.
PS, même pour les non-végés, les burgers du Ninkasi sont incroyables.
Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses incroyables dans Lyon, mais c'est vrai que Ninkasi, c'est cool d'avoir une chaîne à peu près locale qui, pour le coup, a vraiment des trucs de qualité et ils sont ouverts à n'importe quelle heure. J'ai mangé à 17h mon repas du matin, laissez-moi. Et donc, j'y étais parce que j'ai profité du festival des Nuits Sonores où c'était ma troisième fois là-bas. Qui est un festival avec lequel j'ai une relation un peu ambiguë parce que j'aime beaucoup l'électro mais j'aime pas beaucoup les hétérosexuels. Ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup d'hommes et pas forcément des hommes avec lesquels je suis habitué à faire la fête, on va dire. Ce qui pèse parfois quand on a envie de profiter d'un concert et ne pas entendre quelqu'un beugler au téléphone essayer de retrouver son pote con qui a déjà bu cette bière à 17h. Mais passé ce truc-là, j'ai vécu des moments très forts de concert encore une fois. Et donc, j'ai fait une petite story bilan de mon expérience parce que ça a été très court cette année. J'ai pas fait beaucoup de soirs. Du coup, je vous les mettrai à la une. Donc, vous pourrez retrouver sur mon profil Instagram mes blagues et puis mon petit récap. Et ça vous permettra de découvrir.
Mon moment influence,
absolument. Et ça vous permettra de découvrir quelques personnes qui font de l'électro et plein de pattes d'électro différentes. Ce qu'il faut savoir que du coup, les Nuits Sonores, là, c'était la 20e édition. Et c'est un festival lyonnais qui, en fait, a une programmation qui est assez pointue et qui, en même temps, vous permet de parfois complètement profiter d'une soirée autour d'un même genre musical. Souvent, il y a des programmations que je trouve assez cohérentes. Cette année, je trouvais que c'était pas le cas à chaque fois. Mais là, on a pu avoir une soirée avec du rap, avec des artistes comme Runa, Lazuli et d'autres que je connais pas parce que j'écoute pas de rap, en vérité. Et puis, des soirées plus house avec, par exemple, DJ Tennis... Et plein d'autres gens, globalement Jennifer Cardini ce soir-là, etc. Bref, et moi je voulais vous parler de Darkside, qui est un groupe que j'écoute depuis longtemps et qui est en fait un duo composé de deux artistes qui avaient jusque-là une carrière indépendante, qui était Nicolas Jarre, qui est assez connu maintenant, qui est censé être une pointure de l'électro, qui a fait plein de trucs un peu expérimentaux, etc. Et de l'autre côté, Dave Harrington, qui vient plutôt de rock psychédélique. Et donc Darkside, c'est cette espèce d'union d'une électro assez down-tempo, c'est assez lent, etc. Et en fait, avec la guitare et la batterie qu'il y a derrière, on va avoir un côté plus rock progressif, comme on peut avoir sur Pink Floyd, Archive, etc. Et donc Darkside, j'attendais pas grand-chose de leur live en vrai. J'étais un peu fatigué, c'était le dernier jour pour moi, j'avais un peu envie de, comment on dit, crever. Et en fait, je suis arrivé là-bas et déjà leur scéno était vraiment chouette, parce qu'ils avaient un espèce de cercle suspendu au-dessus d'eux. Et en fait, il y a deux personnes qui sont arrivées en combinaison noire et qui ont chopé deux cordes sur les côtés de... Enfin, plus bas du cercle, quoi, qui tombaient de l'espèce de truc suspendu au-dessus. Je sais pas décrire, laissez-moi. Et en fait, je m'attendais à ce que le cercle se fende et c'est pas arrivé tout de suite. Ils ont commencé à tourner et de l'autre côté du cercle, c'était du miroir. Ce qui fait qu'avec la projection de lumière, ça faisait des espèces de halos lumineux magnifiques et après, il s'est fragmenté. Et donc, avec les fragments de miroir, ça donnait des trucs magnifiques. Des fois, il y avait des contre-jours, donc on avait l'impression que c'était la lune, etc. Bref, c'était magnifique. Magnifique visuellement. Et accessoirement, Moi, j'adore les gens qui composent des chansons pour leur live. Si vous n'êtes pas un groupe de live qui a besoin ou envie d'interagir énormément avec votre public, je trouve pas que ce soit grave tant que ce qui a été conçu pour le live. Et je trouve que là, ça a vraiment été le cas. Ils ont repris. Je sais pas combien il y avait de morceaux en total, en vrai, sur un live de bien une heure et demie, peut-être deux heures, non, plutôt une heure et demie, je pense. Mais en fait, je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça. Il devait y avoir peut-être sept ou huit morceaux. Mais en fait, il les faisait tellement durer que du coup, tu te retrouves dans un état que moi, je recherche dans l'électro, qui est un état de transe en fait. C'est comment arriver à avoir une espèce de boucle où on va vous emmener en fait d'un point où c'est le truc est très embryonnaire jusqu'à un truc où c'est le chaos total. Il y a des Larsen, surtout que Nicolas Jarre au synthé, etc., retouchait en direct parfois des bouts de solo de guitare, ce qui fait qu'il allait le faire rentrer dans une boucle, un truc qui venait d'être joué. Pareil avec la batterie. Du coup, on tombe sur un moment où le morceau se transforme, se détruit, se déconstruit sous nos yeux. Et je trouve ça dingue à voir. Et c'est vraiment des moments où en fait. Quand je suis bien et que le public me rappelle pas trop au réel, ce qui est pour ça que je râlais tout à l'heure sur le public, c'est que je suis assez sensible à l'environnement dans lequel j'évolue. Et d'ailleurs, j'ai fini par partir en plein milieu du concert de Moderate, qui est pourtant un groupe que j'aime très fort. C'est dire si ça m'oppresse parfois. Bah, là, pour le coup, le public était vraiment plutôt bon enfant, plutôt chouette, etc. Et je suis complètement parti en transe à fermer les yeux et à rouvrir les yeux à la fin du morceau et vraiment me dire il est quelle heure, quel jour. Et j'ai totalement perdu la notion du temps. Et bah, c'est vraiment ce que je recherche dans la musique. Donc, si vous avez l'occasion de voir en live Darkside, c'est vraiment un truc à voir. Et puis si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est pas mal pour travailler. Moi, la plupart des morceaux, comme ça fait très rituel, ils sont dans ma playlist. Et si on crucifiait ta mère, Jérôme, qui est ma playlist dans laquelle je mets tous mes morceaux de type un peu processionnaire, un peu rituel, machin et tout.
Qui est Jérôme?
Je sais pas, Jérôme, okay. C'est n'importe qui, peu importe. Voilà, du coup je voulais vous parler de Darkside et j'ai ressenti ça un peu avec Plaid aussi, dont je vous ai parlé un petit peu dans mes stories, mais je vais pas vous spammer avec tout ça. Voilà, allez écouter plein de trucs qui sont programmés aux nuits sonores, vous verrez qu'il y a plein de types d'électro différentes, qu'on peut avoir des choses très acides, c'est-à-dire des sons qui, c'est difficile à décrire l'acide, mais qui partent un peu en couille à partir de petits fragments, de boucles, d'arpèges, de trucs, et à côté vous allez avoir des choses beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus proches de ce que vous pouvez entendre en radio, je pense à Moderate, et puis de la house, et puis de la techno, et puis voilà. Enfin, il y a plein de choses différentes, il y en a vraiment pour pas tous les goûts, parce qu'il faut quand même aimer la musique électronique, mais beaucoup de goûts différents. Et je trouve que Darkside, c'est pareil, c'est un beau pont. On reproche souvent aux artistes électro d'avoir un truc froid où ils ont qu'à appuyer sur un bouton, et là, en fait, on a vraiment de la musique live, et l'électro est vraiment au service de ça aussi, et je trouve ça vraiment chouette à voir, sans la facilité des écrans en plus. Donc vraiment, en termes de scéno, ils se sont vraiment dépassés, ce qui est rare en musique, il faut le dire. Voilà.
Super. Filé aussi dans les stories de Mathis, du coup.
Absolument. Pour avoir sur la carte. Je la mette à la une, du coup, mais oui.
N'oublie pas.
Absolument.
T'as le temps, ça va, ouais, vu là. Qu'on est dans le futur.
Mettez-moi la pression, mais si je ne l'ai pas fait.
Anthony, it's now your turn.
Oui, bien sûr. J'hésitais entre un kiff recueil de poésie, mais je vais faire autre chose. Je vais vous parler d'un prix dont j'ai peut-être déjà parlé dans LMK, mais de manière... Je sais pas parler français de manière subsidiaire, brève et connexe à autre chose. En fait, ce n'était pas mon kiff.
Je ne sais pas parler français. Je vais citer deux mots disparus de la langue en latin.
Hashtag l'Académie française encore.
Le prochain sponsor peut-être.
Grave. Il y a un truc à tenter.
Peut-être. Wow. D'ailleurs, je précise que mon kiff n'était pas sponsorisé, que je ne travaille pas pour la mairie de Saint-Céré.
Toujours pas.
C'est vrai. Je l'ai dit en te vannant, mais.
Oui. Mais c'est bien de le rappeler, parce que d'habitude je viens pour faire des kiffs sponsorisés. Donc,
alors que là, il n'y a pas d'argent.
J'avais été attaché presse pour un livre de l'Académie française quand j'étais jeune. Bref, c'est une autre histoire.
Quand j'étais jeune. Mais tu es en 2002, Anthony,
évidemment,
tu es jeune.
Évidemment, mais le temps file trop vite. Donc en 2002, t'es déjà assez âgé, quoi.
C'est vrai. Super chaud, non?
Il fait hyper chaud, vraiment.
J'avais hyper chaud. Hein.
C'est le studio de podcast, putain. C'est l'enfer.
Du coup, l'autre fois, je vous avais parlé du travail de Nantonet Traoré, qui est un photographe, artiste, poète. Et là, je voudrais vous parler d'un prix qu'il avait mis en lumière l'an dernier, qui s'appelle le prix Utopie, et qui rempile cette année. Et en fait, l'exposition inaugurale des 10 finalistes commence aujourd'hui, 23 mai 2023. Donc au moment où vous écoutez ce podcast, oh, j'avais pas vu que ça faisait 23. Oh, je les adore. Bref. Eh bien.
Ouais, t'aimes beaucoup les 15h15.
J'adore les miroirs.
7h07.
Eh bien, en fait, le prix Utopie, c'est un prix qui récompense les artistes LGBTIA+. Et c'est un prix qui est tout nouveau, qui est tout jeune. La première édition a été en 2022. Et l'an dernier, du coup, parmi les 10 finalistes, il y avait Nantenet Traoré. Et là, je vous parle de 10 finalistes et vous dites, mais qui a gagné? Eh bien, tout le monde. C'est ça qui est assez extraordinaire avec ce prix. C'est justement que, en fait, les créatrices de ce prix, qui sont deux femmes, n'ont pas voulu instaurer d'esprit de compétition. Parce qu'en fait, dans l'art contemporain, ça arrive assez souvent que des galeries mettent en scène un artiste en particulier, qu'elles aient leur poulain, leur artiste fétiche, qu'elles le mettent énormément en avant, en tête de gondole, dans leur foire, dans les foires d'art et compagnie. Et les prix aussi, les fondations d'art, quand elles font des prix, souvent ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un gagnant ou une gagnante et tous les autres vont assez peu bénéficier de visibilité, alors même qu'ils et elles ont été très engagés dans toute la compétition. Donc c'est assez difficile comme expérience, j'imagine, pour les artistes. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu de première main, mais de deuxième main, je peux vous dire que c'est compliqué. Bref, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le prix Utopie, contre cela, contre cet esprit de compétition hyper concurrentielle qui domine l'art contemporain, et pas que, elles ont créé un prix qui met en valeur les 10 finalistes parmi énormément de dossiers sélectionnés. Donc en fait, ça procède comment? C'est un appel à candidature, n'importe qui peut envoyer son dossier, enfin n'importe qui. Il faut être un ou une artiste qui n'est plus en études, donc il faut avoir terminé ses études d'art, ou ne pas en avoir faites, mais en tout cas être lancé dans la vie active, en quelque sorte. Et voilà, ça s'appelle le prix Utopie. Le nom, déjà, je le trouve sublime, parce que ça montre bien leur volonté de changer les codes, en fait, de ce qui existe déjà et de rêver. Et c'est assez rare pour être souligné. Et les deux personnes qui ont fondé ce prix s'appellent Agathe Pinet, elle a 25 ans, et Myriama Idir, elle a 48 ans. Et c'est assez intéressant aussi d'avoir deux profils différents et complémentaires. Ça donne une sélection aussi très éclectique. Elles sont deux générations différentes et elles se ressemblent énormément en même temps. Tout en ayant des points de vue, je me répète, mais complémentaires. Et je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps pour Mademoiselle, donc j'ai publié l'interview cette semaine. Donc,
vous aurez le lien dans la description de l'épisode.
Le lien est dans la description, évidemment, car les choses sont bien faites. Et du coup, quand vous écouterez cet épisode, je pense que l'exposition aux magasins généraux sera terminée. Donc les magasins généraux, c'est un énorme espace à Pantin, en banlieue parisienne, qui appartient à un BETC, qui est une énorme agence de pub, mais qui fait les choses bien par ailleurs. Et... en gros, du 23 au 28 mai 2023, les 10 finalistes étaient exposés dans les magasins généraux, ce qui permet d'avoir des créations artistiques dans un lieu assez colossal et en même temps de faire converser ces pratiques artistiques très différentes qui émanent toutes ces pratiques émanent d'artistes queer. Donc c'est assez cool. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent dans les prix ou dans les expositions, on va avoir un ou une artiste queer qui va servir de caution queer, en fait, de petits vernis subversifs à une sélection, à une curation. Et là, elles vont jamais être... ces artistes ne vont pas être une caution queer, ça va être tout le monde, en fait, et c'est assez cool. Et donc, les artistes vont dans cette sélection, dans ce prix, en sachant que ces artistes ne vont pas être instrumentalisés ou fétichisés ou mégenrés. Et c'est assez génial, je trouve. Et voilà, je vais quand même nommer les 10 artistes parce que c'est important. Donc, il y a Maïk Baksan, Nelson Bourret Carter, Ayla Maï Kabel, Jordan Roger Barré, No Anger, Audrey Copé de Kermadec, Naël Daria, Sido Lansari, Elijah Ndoumbé, Kianue Tran Kiehu. Et je tiens à souligner en toute transparence que je connais Audrey Copé de Kermadec.
Mais vous l'avez entendu dans ce podcast. Elle a travaillé chez Mademoiselle pendant un temps et du coup elle a participé à quelques épisodes de LMK. Donc
effectivement, voilà. Yael a travaillé chez Mademoiselle, c'est une artiste non binaire et ses pronoms sont Yael. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Yael utilise les deux pronoms. C'est principalement Yael, mais elle utilise aussi elle. Voilà.
Okay,
et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est assez génial aussi. Enfin, je soutenais ce prix l'an dernier avant même qu'il y ait ma pote dedans, vous voyez. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est encore plus cool de voir qu'il y a quelqu'un que je connais à l'intérieur de la compétition, même si ça ne change en rien mon jugement sur le prix, la qualité du prix. Je l'aurais soutenu de la même manière si Audrey n'était pas dedans. Je soutiens aussi Audrey, évidemment, donc je vous encourage à aller voir ses créations, mais aussi celles des 9 autres artistes qui sont toutes et tous brillants et brillantes. Donc voilà. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que donc, peut-être qu'au moment où vous écouterez cet épisode, l'exposition au magasin généraux sera terminée, mais, il y a tout un cycle d'expositions, 3 expositions qui auront lieu en automne, hiver 2023-2024. Donc, dans des galeries parisiennes a priori, mais vous pouvez trouver la plupart du travail de ces artistes en ligne aujourd'hui, la vie est bien faite. Donc voilà, vous aurez des occasions, si vous passez à Paris, de voir le travail de ces artistes exposé à nouveau cet automne-hiver et sinon en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc en fait, mon kiff, c'est ce prix. Et dit comme ça, ça peut paraître un peu abstrait et je vous invite chaleureusement à lire l'interview parce que c'est non seulement les artistes qui sont exposés, la démarche de créer un prix d'art contemporain, mais aussi l'interview, elle est assez pas start-upper nation ni entrepreneuriat à fond, les ballons, mais plutôt en fait dire qu'on a tous et toutes des talents. Et ce que je trouve génial dans leur interview, c'est que ce qu'elles disent, qui est hyper important, les cofondatrices de ce prix, Myriama Idir et Agathe Pinet, c'est que, en fait, ce que je trouvais brillant, c'est qu'elles n'arrêtent pas de parler de faire avec l'existant. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de créer des choses ex nihilo à chaque fois, et c'est même beaucoup plus compliqué de faire ça. Et qu'en fait, on peut se reposer, s'allier avec des choses qui existent déjà et proposer des idées nouvelles avec ce qui existe déjà pour être plus efficace, plus solide dans nos assises aussi. Et ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre pour mieux rêver, en fait. Et donc, d'utopie. Et c'est pas grave si on l'atteint pas, cette utopie. Ce que j'ai trouvé assez admirable aussi, c'est qu'elles étaient hyper humbles pendant toute l'interview. Elles arrêtaient pas de dire oui, mais en fait c'est perfectible, en fait on pourrait encore faire mieux, on pourrait progresser, on pourrait proposer plus d'argent si on arrivait à récolter plus d'argent, etc. Mais en fait, c'est déjà génial ce qu'elles font, d'une, et d'autre part, vouloir faire mieux, c'est aussi très très cool. Et, mais en fait, est-ce qu'on peut atteindre une utopie ? Bah, je ne pense pas. Mais tendre vers cet idéal sans cesse, perpétuellement, bah, je trouve que c'est la plus belle manière possible de réaliser une utopie, quoi. Dans la mesure du possible, évidemment. Voilà, c'est la fin du kiff.
C'est la fin de cet épisode.
J'ai tant parlé que ça, je suis désolée.
Non, pas du tout, mais parce que c'était une très belle conclusion.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, voilà, c'est tout.
C'est la fin du podcast. Donc, c'était la fin du tout.
C'est la fin de tout, voilà.
C'est la fin
on ferme.
De la vie.
Non, quand même pas.
Allez, on ferme le rideau.
Bon,
ça va bien se passer, Mathis.
non, mais c'était vraiment hyper intéressant et moi je trouve ça hyper cool que les fondatrices, enfin les créatrices de ce prix aient décidé de récompenser tout le monde parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, le plus souvent dans le monde de l'art contemporain, il y a la lumière qui est mise sur un artiste ou une artiste spécifique et du coup il reste plus rien pour les autres aussi, donc c'est cool d'avoir la possibilité de faire ça, en fait.
Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, effectivement, elle récompense 10 artistes. En fait, si elle le pouvait, elle aimerait en récompenser 20 ou 30, mais ce n'est pas possible.
C'est
avec
déjà bien d'en récompenser 10. Hein.
Ouais, 10, bah c'est déjà génial. Hein. Et en fait, le prix, du coup, c'est une dotation de 1 000 euros par artiste, plus les mêmes opportunités d'exposition. Donc, tous les 10 finalistes, exposent au Magasin Généraux, plus dans les 3 galeries parisiennes à l'automne-hiver, plus il y a une résidence artistique. Et voilà. Donc,
trop bien.
C'est pas du flan, quoi.
Ouais.
Et vous aurez les noms d'artistes, du coup, dans la description de l'épisode.
Ainsi que l'interview.
Oui.
Alors, moi, mon kiff cette semaine, c'est un livre qui vient de sortir, qui est sorti le 17 mai 2023. Parce que j'aime beaucoup les livres. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore lire. C'est mon passe-temps favori quand je suis chez moi et que j'ai le temps, en vrai, parce que c'est aussi une question de temps. Et j'ai littéralement bouffé le dernier livre de Fiona Schmidt. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Si, moi, je la suis sur Insta.
Ah, bah
j'aime
beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui la suivent sur Instagram. Elle a une grosse communauté, je crois. C'est donc Fiona Schmidt, une journaliste et autrice. Et donc, elle vient de publier un livre qui s'appelle « Vieille peau ». Donc, volontairement provocateur, ce titre. Et ce livre, en fait, c'est un essai à la fois... autobiographique et qui sollicite aussi des concepts philosophiques ou issus de la pop culture sur le fait de vieillir. Et en fait, Fiona Schmidt, dans son livre, elle part de ce paradoxe dont souffrent, on va dire, les femmes, qui est de bien vieillir. C'est ce qu'on entend et ce qu'on lit à peu près de partout, que ce soit pour les produits de beauté, dans beaucoup de nombreux magazines féminins aussi. Bien vieillir, mais en même temps, pas trop non plus, parce que faut pas avoir des cheveux blancs, Parce que passé 40 ans, tu ne vaux plus rien sur le marché du travail. Enfin, en tout cas, la société te propose de ne plus rien valoir sur le marché du travail. Et voilà, donc elle identifie ce, elle part de ce paradoxe-là pour dire comment, quand on est une femme en l'occurrence, puisqu'elle parle d'un point de vue féminin qui est le sien, comment, quand on est une femme, est-ce qu'on peut vieillir dans cette société truffée d'injonctions de ne pas vieillir, de ne pas paraître vieille, de ne pas avoir de rides, de ne pas... puis aussi, elle a une grosse partie dans son livre qui parle notamment de la maternité et de ce cadre un peu figé que la société attend encore des femmes, qui est celui de d'être mariée avant un certain âge, d'avoir des gosses avant un certain âge, d'avoir pris entre guillemets l'ascenseur social dans le monde professionnel avant un certain âge, parce qu'après sinon passer cet âge-là, tu disparais ou tu vaux plus rien. Et c'est vraiment passionnant parce que déjà elle a beaucoup d'humour, donc si tu la suis, Sophie, sur Instagram, tu dois le voir, parce que dans ses posts en fait elle est très très incisive, très tranchante, mais en même temps elle a beaucoup d'humour, donc ça rend le sujet beaucoup plus facile, parce que c'est un sujet qui est, quand on le décrypte comme elle le fait très bien dans son livre, qui est pas facile pour le coup, parce qu'il y a une diversité d'aspects qui est vraiment large. Et vraiment, je l'ai lu d'une traite, d'abord par son écriture et ensuite par et surtout aussi par son propos, qui est vraiment passionnant. Et en fait, quand tu refermes le livre, tu te sens en capacité de mieux affronter, j'ai envie de dire, toutes les injonctions sur le fait de vieillir. Donc c'est assez chouette ce qu'elle a réussi à faire. Et elle réussit vraiment à verbaliser parfois des choses et rendre concrètes des choses qu'on ne voit pas, qu'on sait, mais qu'on ne voit pas dans la société, comme je disais, la disparition des femmes après 40 ans. Et pour le coup, je peux prendre le cas des femmes artistes, puisque c'est mon dada et ma spécialité. Mais il y a un truc et ça concerne pas que l'art, mais de se dire que passé un certain âge, les femmes ne valent plus rien sur le marché du travail, parce que soit elles sont devenues mères et donc elles ont été discriminées pour ça. Soit on suppose qu'elles vont le devenir et elles sont discriminées pour ça. Soit elles atteignent la quarantaine et on considère qu'elles sont déjà trop vieilles, plus suffisamment jeunes, plus suffisamment créatives et on ne fait plus appel à elles. On les laisse, ou plutôt on les met de côté et on les invisibilise à cet âge-là. Et il y a un espèce de phénomène de disparition des femmes entre, on va dire, 40 et, je sais pas, genre 70 ans, parce qu'à partir de 70 ans, et on voit ça notamment dans l'art, mais c'est pareil dans la littérature, une sorte de redécouverte, enfin pseudo-redécouverte, en tout cas, des médias, des institutions, pour de redécouverte de ces femmes. Parce que soudainement, c'est oh là là, cette femme totalement inconnue, mais qui en fait a une œuvre extraordinaire, et on la redécouvre et on la met en lumière, et surtout on fait du business dessus, et c'est très lucratif. Et on voit beaucoup ça ces dernières années, notamment avec pas mal d'expositions autour de femmes artistes que l'on redécouvre soudainement, alors qu'en fait, elles n'étaient pas du tout oubliées. Hein. C'est tout simplement qu'elles n'étaient plus tout à fait sexy, ou en tout cas, c'est plus que les institutions en attendaient. Donc, c'était plus suffisamment bankable, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est hyper intéressant, tout en étant drôle et joyeux, parce qu'au final on en ressort pas en se disant vraiment c'est naze de vieillir et la société nous le fait ressentir. Non, on en ressort en se disant ok, la société veut nous faire croire que c'est naze de vieillir, alors qu'en réalité ben on n'a pas besoin de se poser la question comment bien vieillir, parce que dans tous les cas on va vieillir, et autant le faire à la façon qui est la nôtre. Et comme on a envie de le faire, mais en gardant dans un coin de la tête cette capacité à voir quelles sont les injonctions qui nous arrêtent et qui nous oppressent. Voilà, donc c'est vraiment un super livre, Vieille peau, qui, grâce, je pense, à ce livre, ne sera plus une insulte pour de nombreuses femmes. À lire aux éditions, je sais plus. Bellefond, aux éditions Bellefond. Voilà, et, c'est, et oui, d'ailleurs, et je ne l'ai pas dit, parce que justement, Vieille peau, elle part de Vieille peau qui est considérée comme une insulte. Est-ce qu'il y a une insulte pour les hommes vieux?
Vieux con, académicien,
ouais, mis à part
républicain, je sais pas.
Ouais, mais vieux con, ça veut pas forcément dire quelqu'un de,
oui, non, c'est
de
vrai,
vieux. C'est quelqu'un qui pense...
C'est un gros con.
Surtout quelqu'un, ouais, de con en général, ouais,
c'est
quand même.
Con, ouais. Ouais.
C'est ce qui prime.
Donc,
on serait vieux beau, mais du coup, c'est même pas vraiment une insulte.
Vieux beau.
C'est-à-dire qu'il a été beau un jour et qu'il l'est plus, voilà, vraiment, mais...
Ouais, et c'est même plus vraiment une insulte.
C'est daté, hein. Enfin, c'est pas un terme qu'on entend très souvent, je trouve.
Ça dépend si t'as le mot daddy ou pas, mais bref.
On l'a entendu dans cette rédaction il y a très peu de temps, je vais balancer personne, mais...
Ah mon dieu.
C'est parce que tu côtoies pas assez de personnes au-delà de 40 ans, je pense.
C'est vrai que c'est pas si souvent.
Ouais. Sinon ça se dit, hein, vieux beau, mais du coup, ouais, c'est pas la même chose, ouais.
Ouais.
Ok. Ouais.
Mais écoute, moi je suis convaincue, je veux bien que tu me le prêtes.
Ah, mais c'est marrant, t'es genre la cinquième personne dans cette rédaction à qui je dois le prêter.
Bah, donc,
on en a trois, ouais, exemplaires. Je pense que tu pourras le lire assez rapidement. Mais ouais, ouais, vraiment, c'est une très belle, très belle, très belle et très instructive lecture.
Ok. Mais Fiona, enfin, je la suis et j'aime beaucoup ses prises de position, etc. Mmh. Et on l'avait reçue, mais je crois que t'étais pas encore arrivée. Peu de temps avant que tu arrives, elle était venue nous faire, enfin nous parler de son expérience de belle-mère en fait. Et on avait fait une vidéo sur les clichés sexistes qui entourent la belle-mère notamment. Et
elle en parle aussi un peu dans son bouquin. Ouais.
Voilà, mais c'était, elle était très sympa, mais elle aime beaucoup Mademoiselle. Donc,
Mais elle a l'air et teasing. Bon, alors je le dis, mais du coup quand cet épisode sera diffusé, l'interview sera également publiée. Du coup, j'ai pris contact avec elle pour l'interviewer et elle m'a fait un mail de réponse assez exceptionnel. Enfin, elle a l'air vraiment trop cool et trop drôle et c'est d'autant plus chouette que vraiment il y a quelqu'un d'intéressant derrière ce bouquin, parce que ça arrive parfois de lire un bouquin qui est super et de découvrir que derrière la personne est pas si extraordinaire que ça, voire pas sympa.
Oui.
Pour être sympa.
Ça. Ça arrive souvent.
Voilà, et je suis en retard à mon rendez-vous.
C'est le moment de courir.
C'est le moment de courir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et rendez-vous dans un prochain épisode de LMK.
Absolument. Salut.
Merci beaucoup. Bisous.
Bisous.
À bientôt. À très vite.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.